EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour à toutes, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir recevoir notre invitée. Elle avait déjà fait une ou même des émissions à distance, mais vous voyez, elle a franchi le cap. Elle est venue, elle nous a rejoint en vrai. Salut Delphine. Tu vas bien?
Ça va super. Je suis trop contente.
On peut le dire qu'on se connaît bien dans la
oui.
vie.
Bah oui. Tu connais surtout très bien Sandra.
Nous, on a vécu des moments clés qu'on ne peut partager.
Vraiment.
On peut genre juste pas les partager?
Certains oui, certains. Certains non.
Donc Delphine, donc tu es là pour de vrai aujourd'hui et c'est super. Et tu vas pouvoir nous partager ton expérience de postpartum. Tu es maman de 3 enfants et tu as un très gentil mari.
Oui, très gentil, je confirme.
Tu veux le saluer?
Mon mari. Je t'aime. C'est je reviens vite.
C'est ça en fait. Et d'ailleurs, bah, on va quand même, c'est une belle histoire, on va le raconter. C'est que tu as 3 enfants, oui. Dont un bébé, un bébé Shine.
Oui, un bébé Shine.
Pourquoi un bébé Shine?
Raconte, c'est votre histoire à toutes les deux.
Mais en fait, quand il y a eu la conférence Shine en 2023 à MLK, quand je me préparais dans la prière pour amener la parole, je fais ça vite, mais pour donner la place à Delphine, mais quand même, l'idée qui était sur mon cœur, c'est que Dieu me donnait la pensée que les femmes allaient enfanter. Et moi, dans mon esprit, c'était enfanter spirituellement, tu vois, enfanter, bon, tout ça au niveau spirituel, mais le Saint-Esprit, c'était très fort, me disait, non, il y a vraiment des femmes qui vont être guéries de la stérilité, de l'infertilité quoi, des couples. Et puis finalement, je fais le message, on dirait là, et là j'arrive à la fin, je dis Seigneur, c'est sur ta parole. Il faut qu'elle t'accompagne ta parole par des signes et des prodiges, parce que c'est gros à dire, parce que ça crée des déceptions. Bien. Tu vois ces femmes qui attendent ça. Et finalement, on a fait un appel et on a pris un temps de prière. Et j'avais dit, si vous êtes enceinte, écrivez-moi, donnez-moi votre témoignage. Si c'est une fille, vous l'appelez Stéphanie. Si c'est un garçon, vous l'appelez Stéphane.
Bon,
ils ont rien écouté.
Rien du tout.
Ils ont quand même écrit et on a eu Delphine qui m'a envoyé son témoignage et tu peux prendre la suite, Delphine, prends le relais.
Et quand du coup elle prêche par rapport à ça, elle dit je vois des échographies, je vois des bébés et là j'ai attrapé l'échographie dans le surnaturel, je dis c'est pour moi, vraiment je prends ça vraiment, je le déclare sur mon corps et un mois et demi plus tard, pouf, enceinte. Et vraiment... Ma petite, donc, elle s'appelle donc Mia, et pas du coup, Stéphanie, désolée. Hein. Elle s'appelle Mia, ça veut dire aimée du peuple. Et vraiment, Mia est un bébé miracle. Bref, voilà.
Et c'est incroyable parce que la conférence a eu lieu en mars 2023 et il y a eu les enfants Shine sont nés en janvier 2024. Donc si vous faites le calcul, c'est 9 mois plus tard. Donc c'est vraiment. Non mais pour moi
c'était un effet immédiat.
Ouais. Mais vous parlez dans, tu sais, ça aurait pu être dans 5 ans. Mais moi c'était frappant. Je veux dire quand on a imposé les mains à tout le monde et que Dieu a agi, ben que 9 mois plus tard on a et de cette conférence là à mon ce que j'ai su, 9 bébés, on a 9 bébés Shine, tu vois, 9 témoignages.
C'est sûrement, il y en a sûrement plus.
Je pense, oui.
Oui, parce que quand on donne ce témoignage-là, ça suscite la foi, donc, chez les gens. Donc, voilà.
Ah, super. Surtout, toi, c'était un cas un peu particulier parce que tu avais déjà eu 2 enfants, en fait.
Et je me disais, j'ai déjà eu 2, c'est pas grave, si ça marche pas, c'est OK. Sauf que je me sentais vraiment incomplète. Et pour la petite histoire, c'est que quand j'accouche de mon deuxième bébé, j'ai pas encore vu sa tête. Que tout mon être entier crie « On veut un troisième enfant !» Et cette pensée-là, elle n'était pas de moi. C'était clairement de là-haut. J'ai dit « Ok, je prends la pensée, je la mets dans un coin et on verra autant voulu. » Et quand le temps est arrivé, et quand on a voulu avoir un bébé, ça ne marchait pas. Et Stéphanie vraiment était un instrument de Dieu à ce moment précis-là. C'était incroyable. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Merci d'avoir partagé.
Merci.
Et on se réjouit pour la naissance de Mia. Mais en fait, quelquefois, il y a beaucoup de réjouissance autour justement de l'annonce, de la grossesse, et puis l'arrivée du bébé. Et arrive le après. Et c'est là où finalement, beaucoup de femmes vivent ce qu'on appelle le postpartum, avec des signes de dépression. Quelquefois, c'est vraiment une vraie, vraie dépression. Des fois, c'est juste des signes. Et il peut y avoir beaucoup d'incompréhension, de condamnation aussi, de honte. Se dire, mais attends, c'est merveilleux. J'ai eu un enfant, surtout des femmes, quelquefois, qui ont prié pour avoir cet enfant. Ça a été un miracle. Tu te dis, mais maintenant qu'il est là, pourquoi est-ce que je suis pas heureuse? Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre tout ça? Et puis, bah, plus on avance et plus la parole aussi se libère à ce niveau-là. Ça fait que, les femmes se comprennent entre elles et comprennent qu'elles sont pas des mauvaises mères, etc. Et qu'il y a surtout un moyen d'en sortir, parce que la chose la pire dans le postpartum, dans la dépression postpartum, c'est de s'enfermer. Oui. Parce qu'en fait, c'est là où tu coules et tu sombres. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on veut entendre ton témoignage, Delphine, parce que t'es passée par là.
Oui.
T'es passée par là. Tu as souffert. Tu as souffert pour que maintenant tu puisses aussi encourager d'autres femmes et puis partager aussi ce que t'as appris à travers tout ça et donner des conseils pour peut-être mieux le vivre, des choses que toi tu savais pas à ce moment-là. Ouais. Et je crois que ça va aider des femmes à pouvoir mieux le vivre. Donc raconte-nous, trois enfants, est-ce que ça a été trois postpartum pareils ou rien à voir?
C'est vraiment le numéro 2, donc il s'appelle Lenny, un petit garçon. Et ça s'est plus ou moins bien passé la grossesse. Bon bref, ça c'est encore une autre histoire. Et donc il vient au monde. Tout est beau, tout se passe bien, on est vraiment heureux, c'est un bon
bébé. Du coup, t'as eu déjà ton premier enfant,
Noah.
Et là, après, ça s'était super bien passé.
Nickel aussi, parfait, vraiment, non, ça a été très bien.
Ok, donc plutôt... tu t'attendais vraiment pas à ça.
Vraiment pas. Et quand Lenny donc débarque dans notre vie, je vais donc avoir un médecin pour tout ce qui est dit médical pour le bébé. Et puis, elle me pose une question. Mmh. Elle me dit, et vous alors, comment ça va, madame? Ça a été la question qui a fait que là, j'ai craqué. Je me suis mise à pleurer. Je ne m'arrêtais pas. Je dis, ça va pas. Je suis angoissée. Je me sens pas bien. Je suis au bout de ma vie. Je comprends pas. Et je pars. Elle me dit, madame, écoutez, on arrête tout maintenant. Ce qui compte, c'est vous. C'est pas tant le travail ou quoi. C'est vraiment vous le plus important. Donc, je vous propose, si vous voulez, du coup, d'avoir une psychologue au sein de l'institut. C'est comme vous voulez. Et de base, je suis une personne qui, demande pas trop d'aide. Parce que je me dis, je me débrouille et puis on avance, quoi.
Puis il y a pire, quoi.
Voilà, il y a pire. Mais ce jour-là, j'ai dit, OK, je prends maintenant un rendez-vous.
Toi-même, tu t'en es rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
Ça n'allait pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, je passais mes journées dans ma chambre, dans le noir. Je ne sortais pas.
T'avais pas réalisé à ce moment-là, avant qu'elle te pose la question?
Je voyais qu'il y avait des petits trucs, mais je me disais, tu es fatiguée, c'est normal.
Ça faisait combien de temps qu'il était né?
Ça faisait peut-être un mois et demi, déjà. Okay. Et en fait, quand elle me dit ça, je me dis, c'est pas normal. Je passais vraiment mes journées dans mon lit à ne pas bouger, avec mon bébé dans les bras. Donc, du coup, le sein à mon fils. J'étais dans un truc sombre. Je voyais personne, je ne sortais pas, même de ma chambre,
Ah ouais.
À part pour faire ce qu'il faut, mais j'étais vraiment dans mon espace et rien, pas de son, pas d'image, rien du tout. Mon grand garçon, plein d'amour, vraiment, c'est une grâce. Il disait, maman, ça va? Maman, je t'aime, bisous, puis il repartait. Mon époux, pareil, mais j'étais vraiment dans une phase où ça n'allait pas du tout. Vraiment, j'étais vraiment pas bien. J'étais des idées sombres. Ça n'allait pas. Et de dire le pourquoi du comment, je savais pas. J'étais vraiment dans une phase qui était vraiment très très bizarre. Et une des choses qui m'a vraiment aidée, on va dire, à être dans la vraie vie, c'est l'allaitement. Ça m'a un peu sauvée, en fait, de cette zone d'ombre, de cette dépression qui était vraiment présente et constante. Il y a eu ça. Ainsi que la louange.
Ok.
Vraiment les deux choses.
C'est la louange, c'est quoi? T'écoutais
constamment la louange.
Tu chantais et tout.
Je chantais même pas, je priais même pas. Mais juste la musique dans mes oreilles,
dans laquelle ça.
C'est ça. Ça me reposait un petit peu.
Ok. Et donc suite au rendez-vous là, où vraiment tout sort, tu te rends compte que ça va pas si bien que ça.
Oui.
Finalement. Est-ce que t'en parles à ton mari?
Oui, très rapidement, je lui en parle. Du coup, ça va pas du tout. Je me sens pas bien. Je me sens angoissée. Je fais des crises d'angoisse, moi qui en a jamais fait de ma vie. Des crises d'angoisse. J'avais des pensées pas suicidaires, mais des pensées. Tu sais, tu dis de toute façon, je suis là, mais en fait,
je sers à rien.
Je suis un pas pour mon mari, pour mes enfants. Je parle à personne, je sors pas. Et les peu de fois où j'allais donc dehors, c'était vraiment pour déposer mon enfant à l'école, par exemple. J'étais pas bien. J'avais peur de tout, j'avais peur des gens, j'avais peur qu'on me... j'étais dans un état vraiment mais très 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 profond. Et en fait, d'avoir eu du coup un suivi aussi au niveau de la comment dire, chaque semaine avec une psychologue m'a énormément aidée à m'en sortir. D'avoir du coup une heure juste pour moi où vraiment je libère la parole, où je raconte, où je parle pendant des heures et des heures. Elle disait rien, juste elle m'écoutait.
T'aurais pu juste aller te faire les ongles,
ouais.
Faire quoi,
ouais. Vraiment, je parlais, puis elle me disait et elle me comprenait. Elle prenait du coup en considération mes émotions, ce que je ressentais, et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a vraiment aidée à, finalement à m'en sortir au fur et à mesure. Mais ce qui m'a vraiment aidée, c'est le fameux psaume 23 qu'on connaît tous par cœur.
Ouais.
Au verset 4 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Et quand je lis ce verset-là, je me dis « Mais quoi ?» Donc, malgré les ténèbres, on peut marcher. Malgré la vallée sombre, on peut être en mouvement. Et ça a été du coup pour moi comme un déclic de me dire « Ok Delphine, malgré la dépression, malgré la noirceur, malgré ce qui se passe là, tu peux être en mouvement. Un pas à la fois. Un jour à la fois. » C'était pas facile. Franchement, j'étais dans une telle façon de penser... tellement limitante, et puis en plus j'avais pris du poids, enfin il y avait rien qui allait, hein. J'avais pris du poids, j'étais complètement bouffi, enfin je c'était une
ça après l'accouchement c'est
mais supplément la dépression, c'était encore donc même mon image, enfin vraiment il y avait rien qui faisait que ben ça pouvait qui m'aidait pour aller mieux en fait. Mais la louange, l'allaitement, mes rendez-vous chez la psychologue. Et ce fameux verset-là qui m'a, comment je peux vous dire ça, qui m'a tellement mis une alerte en mode, mais Delphine, en fait, tu peux y arriver. C'est pas fini, ta vie n'est pas terminée, tu n'es pas résumée juste à être dans ton lit pendant des mois et des mois. Ça a quand même duré quand même quasiment 9 mois, en fait. Pendant 9 mois, je parlais très peu, je sortais très peu. Enfin, c'était très bizarre. Et en même temps, j'ai senti vraiment la main de Dieu sur ma vie. Parce qu'il y a eu des moments où j'étais vraiment dans un état vraiment très, très critique. Mais c'est comme si, je disais, hop, ma fille, attends. Voilà, c'est bon. Tout le temps, hop, ça m'a dit. Et c'était vraiment pour moi une vraie sécurité. Un vrai matelas tout moelleux de nuages, d'amour.
Est-ce que t'allais à l'église?
Non. Non, clairement, non, j'allais pas à l'église. J'étais tellement pas bien. J'allais pas à l'église. En plus, c'était un peu après le Covid, je crois, si je me trompe pas. Donc, c'est un peu compliqué encore par rapport aux églises, etc., etc. Mais du coup, non, j'avais aucune aussi communion à l'église. Donc, j'étais vraiment seule dans ma chambre, dans le noir, dans mon lit, avec mon bébé. Et c'était tout, quoi.
Est-ce que, à part ton mari, il y a des gens qui l'ont vu? Tu sais, ton entourage, tes amis, est-ce que ça, les gens se rendaient compte que t'allais pas bien ou?
Oui et non, parce que, tu sais, avec le Covid, on voit forcément les gens comme avant. Mais j'ai pu quand même en parler. Parce que je me suis rendu compte que de libérer la parole avait quand même une portée quand même importante, tu vois. Donc, je l'ai fait. Et mes amis proches m'ont fait des cadeaux, des gamelles pour pouvoir manger. Enfin, il y a vraiment eu toute une qui s'est passée. Mais c'est vrai que j'étais quand même toujours dans ce truc-là, en fait, bloqué, à ne pas pouvoir bouger, à ne pas pouvoir même me projeter. J'avais aucune projection. C'était vraiment au jour le jour, quoi. C'était, je donne ça à mon fils, je prends ma douche, je vais manger, puis c'est fini, quoi. C'était vraiment ça ma vie pendant plusieurs mois. Mais dans tout ça, vraiment un gros, gros, gros merci à mon mari, d'un soutien, mais puis d'une patience, d'un amour, d'une compréhension. Il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas mis des coups de pression en disant « Allez, c'est bon, Delphine, maintenant ça suffit ». Pas du tout. Toujours aussi attentif. Et pourtant, franchement, se trimballer une femme en dépression, ça peut être facile, mais vraiment, il y avait ça. Mais il y avait surtout la main de Dieu dans tous les domaines. Pour mes enfants, pour notre couple, pour moi-même aussi, malgré la dépression.
C'est vrai que c'est pas facile pour un homme de comprendre, parce que tu vois ça de l'extérieur. C'est que, franchement, qu'est-ce qui t'empêche de te lever? Et puis, vas-y, quoi. Prends ton courage à deux mains. Voilà, on passe tous par des moments difficiles. Mais là, les mois passent. Et c'est sûr que, pour ton mari et pour les maris qui passent par là, ça demande aussi d'avoir une vision de foi, de se dire, ça ne restera pas toujours comme ça. Ma femme va finir par sortir. On va avoir de la joie encore à nouveau. On va pouvoir, continuer continuer de vivre, continuer d'accomplir des choses. Et c'est sûr que t'as été vraiment très très bénie d'avoir un mari qui n'a pas baissé les bras, qui n'a pas abandonné.
Ah oui.
Parce que des fois c'est pas qu'on abandonne sa femme, mais tu sais, on peut abandonner mentalement, genre je baisse les bras.
Puis des fois c'est l'incompréhension.
C'est ça.
Parce que tu disais, quand on parle de postpartum, c'est une joie d'avoir un enfant, mais en fait il faut comprendre que c'est un peu comme un gros SPM, parce que c'est une chute d'hormones. Quand t'accouches, les hormones chutent tellement drastiquement que c'est normal d'avoir soit un baby blues qui se perdure et qui devient postpartum. Mais ça s'explique. Tu sais, si tu peux expliquer peut-être quelqu'un dans ton entourage, tu comprends pas ce que je dis, mais physiologiquement, il se passe quelque chose dans ton corps. C'est tout un choc. Et ça, c'est bien quand l'entourage peut comprendre, ou ton mari.
Oui.
J'imagine que la psychologue a dû lui expliquer ce qui se passait. Donc, tu dis, ça va passer, mais c'est pas dans sa tête. Parce que des fois, je suis sûre que tu devais te demander qu'est-ce que tu avais. Tu devais dire, c'est quoi mon problème? J'en ai pas de problème, là. J'ai eu un tu vois.
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'avec les années qui ont passé maintenant, ça reste toujours flou de pourquoi tu as fait ce postpartum-là, ou est-ce que tu es capable de mettre des mots maintenant?
Alors, d'après la psychologue, en fait, elle me disait que j'accumulais tellement de choses sans m'en rendre compte. Pouf, 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 et pouf! C'était du coup la goutte d'eau, en fait, qui m'a demandé. C'est ça, en fait, qui s'est passé. Et effectivement, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pu faire différemment sur certains points pour mieux gérer peut-être la suite. Mais en même temps, cette dépression-là était nécessaire pour la suite de ma vie, clairement. Parce que maintenant, je sais aussi, il y a telle alerte, ça montre que peut-être que, hop, je ralentis. Je sais aussi, de vivre ça m'a rapproché clairement encore plus de Dieu. Et je crois vraiment que nos malheurs sont des tremplins pour la suite, clairement. Clairement.
Et est-ce que tu avais des sentiments de honte par rapport à la saison dans laquelle tu étais, à l'état dans lequel tu étais, et puis aussi par rapport à ta foi?
Un peu de transparence, non.
Trop fatiguée, moi.
Ouais, ça devait être ça. En fait, franchement, je n'avais pas de honte. J'étais pas bien, donc je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas me cacher, enfin, je ne vais pas... m'infliger encore plus ça sur moi, c'était déjà assez à gérer. Donc, franchement, vraiment pas de honte. Vraiment pas. Au contraire, j'étais, Seigneur, je suis là. Donc, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce que tu vas faire. Mais je suis dans ça. Et il faut que, voilà.
Mm-hmm. Et tu vois, franchement, on comprend aussi pourquoi c'est juste à l'accouchement, une fois que t'as relâché ton fils, que t'as eu la pensée, non, mais t'as un troisième. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu passes par là, c'est un troisième,
c'était pas une bonne idée, n'est-ce pas?
Mais c'est ça. Et c'est vrai que je pense que vraiment que cette pensée était vraiment de Dieu. Parce que de moi-même, j'aurais jamais pensé, ça va pas, quoi. J'ai pas encore vu mon fils, que je veux dire un troisième, ça va pas. Et la dépression aurait pu, du coup, me décourager par rapport à avoir un troisième enfant.
Ben oui, vraiment.
Alors que pas du tout. Une fois sorti de là, j'ai dit, Jean, il m'a dit, ah non, là c'est bon, on va attendre un petit peu, etc. Et je peux comprendre. Mais en fait, c'était vraiment la pensée qui est venue à ce moment-là, c'était vraiment d'en haut.
Et quand tu dis, quand t'es sortie de là, comment ça s'est passé en fait? Est-ce qu'il y a eu un jour, tu t'es levée, tu t'es dit,
c'est fini.
En fait, je suis redevenue moi-même et tout. Ou alors, est-ce que ça a été progressif?
Je crois que c'était pendant l'été, je pense. En tout cas, il faisait beau. On a fait un pique-nique avec nos enfants. Et je lève les yeux vers le ciel. C'est très bizarre, parce que c'est très genre, un peu genre, comme du par hasard, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Je suis posée avec mes enfants comme ça, et d'un coup, Dieu me dit comme ça, ma fille, c'est terminé. Ma fille, c'est fini. Et je fais comme ça. Le ciel était magnifique. Il était bleu. Enfin, il n'y avait rien. C'était vraiment d'une beauté incroyable. Il me dit, c'est fini. Il y a comme une paix qui descend à ce moment-là, comme un relâchement.
Ah ouais.
Et j'ai dit, ok, Seigneur, c'est fini. C'est terminé. Et ça m'a... J'ai pas eu de... Physiquement, il s'est rien passé, entre guillemets, mais je savais que c'était terminé.
Mm-hmm. Et là, après, la vie a repris de là.
Alors, en fait, ce qui m'a aidé, c'est que, avec le verset donc 4 du psaume 23, être en mouvement, je me suis dit, bon, Delphine, sois en mouvement. Donc, sors de ton lit. C'est un mouvement. Mm-hmm. Voilà, c'est un mouvement. Delphine, habille-toi. C'est un mouvement. Ok, je m'habille, super. Delphine descend l'escalier, parce qu'en bas, il se passe des choses. Il y a la vie, il y a du monde. C'est un mouvement. Et c'était ça. C'est que, en fait, chaque chose était un mouvement sur ma guérison, sur ma restauration. Sortir, mettre des vêtements. m'habiller. Je passais ma vie en pyjama ou en pagne ou je sais pas. J'étais habillée vraiment, voilà, m'habiller, mettre de la couleur. Enfin, ça a été pour moi des choses qui m'ont aidée à m'en sortir, à pouvoir avancer. Delphine, je sais pas, moi par exemple, passe du temps avec ton premier, juste comme ça pour le mm-hmm. pour plaisir. Bah, j'ai fait. Et ça paraît peut-être un peu bête, mais ça m'a aidée à toucher ma guérison. Mmh. Et quand enfin ce fameux jour où je me dis c'est fini ma fille, en fait j'ai tellement tout le processus qui a été mis en place pour pouvoir m'en sortir. Et ça, je sais pas comment vous l'expliquer, enfin je l'ai vécu et ça était vraiment un soulagement. Et quand je reçois ça, j'ai dit ah, bon, c'est bon, c'est fini en fait, ça va. Il était content, lui par contre.
c'est bon.
Enfin. c'était à la fois amer comme situation, mais rempli de douceur, vraiment de la présence de Dieu du début à la fin. Mm-hmm. Et ça. Ouais.
Et j'imagine quand tu te mets en mouvement, quand tu commences à t'habiller, est-ce que c'était j'ai le goût ou bien je me force, il faut que je me mette en mouvement. Parce que des fois, c'est un peu ça, pour sortir d'un cycle, tu dis, OK, je me mets en mouvement, je le sens pas, c'est pas mais tu sais que c'est ce mouvement-là qui change, qui brise le cycle.
Exactement, c'est ça. C'est,
donc, faut pas attendre toujours d'avoir l'émotion, aujourd'hui que ça me tente, ou demain ça me tente pas. C'est commencer à le faire, mais demander la force de Dieu, bien sûr.
Exactement.
Il crée en nous le vouloir et le faire, tu sais, dans ces moments-là. Il peut te demander, mais j'imagine c'est un peu ça, de dire, je commence à faire des gestes, même si...
Même si je vois rien, même si je comprends pas forcément ce qui se passe, mais au moins je le fais. Et puis d'être entouré, c'est très important. En fait, je pense qu'on est nombreux à vivre ça, mais on le vit seul dans son coin, on n'en parle pas parce qu'il y a la honte, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans nos têtes, mais en fait, t'as vu du coup la psychologue, mon époux qui a été d'un soutien incroyable, mon petit garçon d'à peine 5 ans, vraiment il a été d'une douceur à ce moment-là, ça a vraiment été aussi pareil, mon petit bébé malgré tout Léni, de toute façon tu vois qui c'est, comment il est Léni, hein. Léni est très intense, c'est vraiment un enfant incroyable et vraiment lui ça a été mon soleil dans la dépression.
Ok.
Il s'est vraiment servi vraiment de Léni pour que j'aille mieux aussi en fait. Et toutes ces choses là, en fait, je mets vraiment en place des choses, des situations, des circonstances, des personnes pour que on puisse du coup avancer. Et ça m'a vraiment aidé. Et je sais que c'est un peu honteux pour une épouse, mais en fait, faut parler. Ou la sage-femme, bref, mais il faut parler parce que c'est le début de. En fait, quand on commence à parler, il se passe quelque chose, même dans le ciel.
Ça enclenche
quelque chose, en fait. De libérer la parole, ça enclenche quelque chose. Et vraiment, moi, ça m'a énormément aidée.
Et quand tu as été enceinte de ta fille, est-ce que tu appréhendais de repasser par là?
Non.
Non?
Non, parce que c'était terminé pour moi.
Ok, tu sais.
Seigneur, c'était un temps, une saison. J'ai appris plein de choses. Et c'est bon, voilà. Là, c'est mon dernier bébé, Seigneur. Alors, je veux que ça se passe bien. Je veux pouvoir vivre ça pleinement. Et en plus, c'était une fille. Ouais. Après deux garçons.
Mais nous, les bébés chats, on fait quand même bien. Là.
Ouais. Du sur-mesure, vraiment. Et en fait, j'ai pas eu d'appréhension par rapport à ça. J'ai eu.
Et ton mari?
Un petit peu.
Bonne question.
Très bonne question. Mm-hmm. Un petit peu. Il n'était pas trop chaud pour avoir un troisième bébé.
À cause de ça.
Que ça revienne.
Voilà, à cause de ça. Il m'a dit, oui, mais bon...
Flemme. C'est pas d'avoir trois enfants qui fait peur.
C'est vraiment ce qui va se passer, le pendant et l'après. Et j'ai dit, mais chérie, j'entends et je comprends, mais là, c'est la foi. Là, sois un homme de foi. Mais voilà, et du coup, finalement, ça s'est fait. Mais ça n'a pas été facile, parce qu'effectivement, on pense aussi au passé, à ce qui s'est passé, etc. Mm-hmm. etc. Et vraiment, je comprends qu'il n'était pas forcément très, très disposé et très chaud à avoir un troisième enfant. Finalement, on a eu, et ça se passe très, très, très bien. Il est très heureux d'avoir une petite fille. Oh, oui. tu connais mes enfants.
En même temps, d'inviter ta fille, c'est normal.
Mais non, j'avais vraiment aucune appréhension, parce que c'était vraiment, pour moi, comme acté, terminé. Mm-hmm. Nouvelle saison, nouveau bébé, nouvelle grossesse. Dieu fera encore de grandes choses par rapport à ça et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs.
Et du coup, quand tu as eu ton bébé et tu vois, tu as quand même eu une chute d'hormones.
Oui, d'hormones, ouais.
Et là, toi, tu avais zéro doute aussi, tu t'es dit...
J'avoue, je me suis dit, il y a peut-être un petit truc et j'ai refusé.
Ok.
Parce qu'on avait donc déclaré juste avant, on avait proclamé, on avait prié sur ça, on avait acté ça. Et c'est comme si, tu sais, ça veut...
Ouais.
Je peux revenir en fait, hein. Et j'ai dit non, je refuse au nom de Jésus. Okay. C'est terminé, c'est acté. Maintenant, je vis ça vraiment différemment. Et franchement, mon postpartum s'est extrêmement bien passé. Mais moi, ça m'a surpris parce que je me suis dit, mais ça s'est bien passé. J'ai pu faire plein de choses. J'ai pu même voyager. Enfin, ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Vraiment, Dieu avait tout prévu par avance par rapport à ça. Mm-hmm. Vraiment.
Bah ça, c'est beau. Je pense aussi que ça donne aussi de l'espoir parce qu'une fois, t'as pu le vivre tellement, ça a été tellement douloureux que...
Ça peut te bloquer.
Bah oui. Tu te dis, est-ce qu'on veut remettre ça? Ouais. Est-ce que c'est sage? Mais en fait, c'est pas une histoire de sage. Non. Comme tu as dit, c'est une histoire de foi. Oui. Et c'est pas non plus une fatalité, en fait.
C'est ça.
Et ça peut arriver. Et comme tu l'as dit, il y avait quand même des signes et il y a des choses qui auraient pu être différentes. Ouais. Et comme on l'a dit dans l'émission avec Aimé, en fait, il y a des moments dans la vie où les choses qu'on n'a pas traitées, des mauvais plis qui deviennent des blessures, qui deviennent des zones sensibles dans nos vies, bah dans des moments forts comme ça, qui sont forts spirituellement, émotionnellement, physiquement, bah ça peut créer à ce moment-là, c'est là où le système il tient pas en fait, c'est comme là où on se maintenait, mais là avec la nouveauté, là on n'arrive pas à tenir, et c'est là où les systèmes peuvent cracher parce que il y avait déjà des fragilités, et ça je pense que c'est important d'en avoir conscience pour pas non plus dire ah tu sais je veux pas d'enfant parce que moi je vais pas faire de dépression, etc. Bah, c'est un peu, tu sais, quelquefois comme le mariage, prépare-toi en fait.
Exactement.
Prépare-toi à la maternité, bah, prépare-toi. En fait, il y a des choses, c'est des bouleversements, et quelquefois on veut pas trop le dire parce que ça fait un peu peur, mais ta vie va changer et ta vie change.
Oui, je vous confirme.
Vie change.
C'est des bouleversements.
Ah, oui.
Mais c'est comme ta vie change quand tu vas te marier, et en fait, la meilleure chose, le meilleur service qu'on peut se rendre, ça va être la bonne préparation. Oui. Et la bonne préparation, je pense que ça va beaucoup aider en amont, et aussi d'être dans la foi et de pas être dans la peur de se dire oh, je veux pas que ça m'arrive, ça arrive à Delphine, etc. Non, parce que Delphine, la troisième grossesse, t'es aussi dans la foi, c'est comme non, ça m'arrivera pas.
C'est ça que je voulais savoir, c'est parce que t'en as un petit peu parlé en disant que vous aviez déclaré des choses, mais tu sais, toi qui as vu la différence, comment concrètement tu t'es préparée pour cette grossesse là pour pas justement marcher dans la peur, pour garder en fait ces miracles que tu avais reçus? Comment est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a des actions concrètes que tu as posées, des prières que tu as faites, des choses comme ça?
Je pense que vraiment la prière de où tu déclares, tu sais, où tu exposes en fait les choses mauvaises. Par exemple, Seigneur, ce qui s'est passé auparavant là, c'est plus mon partage. C'est terminé. Nouvelle saison. Et en fait, je me lève, je déclare, je proclame, je vais récupérer ce qui m'appartient. Je suis en mode guerrière, en fait. Je ne veux plus vivre ce qui passait avant. Je veux vivre autrement, différemment. Et vraiment, la prière m'a énormément aidée. Et puis, d'être entourée, de parler avec des gens, avec des mamans, échanger par rapport à ce sujet-là, tu vois. J'ai une amie qui est aussi thérapeute. Et d'en parler aussi avec elle. En fait, c'est de se préparer dans la prière, mais aussi dans le concret. Parler avec des personnes, ça aide énormément. Vraiment. Et même si, bien sûr, des fois, on a tout ce qui est appréhension, c'est sûr, c'est là. Mais comme j'ai basé ma foi sur Jésus et j'ai déclaré et que c'est solide, même s'il y avait quelque chose, je sais que non, c'est plus mon partage. C'est vraiment l'ancienne saison, nouvelle saison. Donc forcément, nouvelle chose. Et j'ai aussi un tempérament qui est comme ça, peut-être, mais... Sans blague. Mais en fait, je ne veux plus me laisser faire. Je ne veux plus laisser l'accès en fait à l'ennemi sur ça. C'est terminé. Donc on y va. Et puis avec mon époux, on a aussi prié par rapport à ça, et on a dit ok, là c'est différent. Et effectivement, d'autres combats sont arrivés pour avoir le bébé, mais en tout cas par rapport à ça, là c'était non. Je voulais plus, et c'est vraiment la prière et d'être entourée et puis d'en parler, quoi.
Je t'ai déjà posé la question, mais j'ai oublié. Mais toi, comment tu l'as vécu en postpartum?
Écoute, moi, j'ai vécu ça deux fois, la même chose pour mes deux enfants, mais ça a duré quelques heures à peine. Les deux fois.
Quelques heures?
Ah, oui, je vais t'expliquer comment. C'est le temps de sortir de l'hôpital. J'ai le siège. Mon mari est allé à la voiture, chercher la voiture. C'était l'hiver, mon premier, Philippe. Et là, j'ai le bébé à côté de moi. Et il est dans son petit siège, tout petit. J'ai tout mis, le chapeau d'hiver, tout ça. Puis là, je suis là. Puis là, je me mets à pleurer. je serai jamais capable. Je serai jamais. Et là, je m'effondre, me disant, comme c'est tellement de responsabilité, il est tout petit, qu'est-ce que je vais faire? Et ça a duré comme quelques heures, je sais pas vous dire. Et rendu à la maison, c'est comme la grâce de Dieu. Je pense que c'est vraiment hormonal dans mon côté physiologique. C'est pouf, l'estrogène, progestérone, ça tombe. Mais l'émotion que tu décris, c'est, tu l'inventes pas, là. C'est, c'est autant qu'avant, ouais, on va avoir un enfant, que là, c'est, je suis nulle, je serai jamais toute, je te démunis, toi. Et à Jérémy, la même chose. C'est en plein été. Mon mari va chercher la voiture. Encore, le siège d'auto est là. Je suis là. Puis pourtant, j'étais capable, tu vois. Toi, mais je ne serais jamais capable. Vraiment envahi par des vagues de. Et merci Seigneur. Ça a passé. Dans mon cas, je pense que c'était que physiologique. Mm-hmm. Et après ça, bien, tu sais, on a retroussé nos manches. Mais c'est, il y a quelqu'un qui écoute l'émission, on dira, c'est vraiment ça, là. On le vit comme ça. Mais dans certains cas, c'est quand ça se prolonge. Mm-hmm. Et là, on parle. Mais imagine-toi, je me disais, quand moi, je parlais avec des femmes qui avaient vécu comme toi, je me disais, moi, ce sentiment-là,
qui reste.
Qui reste. Ouais. Et j'avais tellement compassion parce que je me dis, imagine-toi, quand tu disais de l'anxiété, de l'angoisse, c'était ça, je me disais, ça me prenait, je me disais, mais, c'est la vie finie. Là, toi, là, ça dépasse la logique.
Ouais, c'est
mais c'est bon de l'entendre parce que quand tu le vis, ça fait, toi, je te le raconte, tu dis, ça fait pas de sens, mais la femme qui le vit, ça fait pas de sens, mais c'est dans son cœur. Et c'est pour ça, bien sûr, que ça prend la prière, la grâce, aller chercher de l'aide, en parler, et de croire, toujours comme on dit dans l'émission d'Aimé, c'est que ça, c'est pas la vérité non plus. C'est quand t'es pris avec la noirceur, c'est ce que tu ressens, et je le dis souvent, les sentis, ce que tu ressens, c'est pas la réalité. Et c'est pour ça que ça te prend des amis, des gens qui ont d'expérience, ta famille, qui vont dire, écoute Delphine, accroche-toi, ça va passer. C'est pas ce que tu ressens, là, c'est, ça va passer. Tu sais. Et c'est ça qui, comme une émission, comme on fait, de le dire à quelqu'un, ton témoignage, j'ai fait de dire, tu sens peut-être ça, mais ça va passer. Oui. Toujours de l'espoir.
Et aussi d'avoir le courage, je pense, d'accepter de l'aide, comme dans ton cas, tu vois. Oui. Il suffit que ça ait été un jour où tu aurais été un petit peu plus, peut-être...
Non, mais c'est bon.
Et puis, tu vois, tu serais reparti dans une boucle, accepter de l'aide. Et puis, l'étape au-dessus, qui peut être plus difficile, c'est même oser demander de l'aide. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui s'enferment en se disant, non, les autres, elles ont réussi. Pourquoi est-ce que moi, je réussirais pas? Les autres, elles ont l'air d'avoir... Mais en fait, quelquefois, on sait pas trop comment elles l'ont vécu, ni à quel prix elles ont réussi, tu vois. Et en fait, non, j'y arrive pas, tu vois. J'arrive pas à tout faire. Quelquefois, c'est pour un... C'est pour un premier ou pour un deuxième, mais peu importe. Mais de dire, est-ce que tu peux aller chercher mon enfant à l'école? Tu sais, quelquefois on propose à des mamans, tu sais, t'as besoin, non, c'est bon, j'ai tout. Puis il y en a une qui m'avait dit, faut arrêter de demander si on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, juste fait, tu vois. Si j'ai besoin d'un repas, fais un repas. ce sera jamais perdu. Et c'est vrai que là, d'un point de vue de l'entourage, c'est de se dire, quoi qu'il en soit, même si c'est pas une dépression postpartum, c'est quand même un moment et que certaines femmes sont pas très fortes pour décoder leurs besoins, ni pour savoir qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont tristes, et quelquefois ça arrive à un moment où tu sais, on te pose la question, tu te dis mais attends, qu'est-ce qui m'arrive là, tu t'effondres, mais en fait t'allais déjà pas bien depuis un bon moment. Et il y a plusieurs femmes, elles sont tellement habituées à être au contrôle, à gérer, à être en mode, faut que ça fonctionne, je dois réussir à tout faire, que t'as beau leur demander, ça va, t'as besoin de quelque chose, elles vont jamais te dire oui. Donc c'est de dire, bon, je vais le faire sans être imposante ou contrôlante, mais faire un plat, proposer d'aller prendre, de récupérer un enfant, ou même quelquefois d'aller la visiter et de pas être pénible. J'insiste, soyez pas pénible si vous allez visiter les jeunes mamans, à leur dire comment elles doivent éduquer leurs enfants, etc. Mais tu sais, d'être là, quelquefois juste une présence, porter le bébé. Il y en a certaines, elles veulent que tu portes pas le bébé, elles veulent porter leur bébé, que tu fasses autre chose, la vaisselle, le ménage. C'est tout ce genre d'aide, et de pas attendre forcément en tant qu'entourage, en tant que sœur, en tant qu'amie, qu'on nous le demande, parce qu'il y a des femmes qui le demanderont jamais. En fait.
Ouais, puis de, tu sais, tel film, t'as pas eu de honte, mais plusieurs ont la honte, le sentiment, comme, surtout dans nos cercles chrétiens, de dire, mais en fait, c'est ce que j'ai rêvé, comme on l'a dit, puis c'est ça que ça m'arrive. Et ça, il faut briser ça et aller chercher de la... Puis la honte s'ajoute à ça, et tu le dis rapidement, mais toute l'image de soi, on en parlera, mais c'est vrai que quand tu viens d'accoucher, l'allaitement, je vous épargne les détails. mais écoutez, tout ça, tu sais, comme moi, j'ai tenté d'allaiter, puis l'infirmière, et moi, je suis pour l'allaitement, il n'y a pas de problème, mais ça ne fonctionnait pas. Oui. Et là, en pleine nuit, je dis à l'infirmière, tu sais, le bébé commence à faire une journée, je dis, je pense que je vais arrêter d'allaiter. Puis la femme, elle me regarde, elle me dit, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Mais non, je me dis, je suis en train de tuer mon enfant, c'est ça, là. Non, mais elle dit, pensez, écoute, mais, et toi, c'est ajouté à ça. Je pense le moment avec le bébé, je me dis, mais là, je l'allaite pas, je suis pas capable, je serai jamais capable. Donc, c'est ça qu'il faut arrêter de mettre une pression, puis c'est pas, il y a pas de honte. Puis, tu sais, moi, je pensais, j'avais pris du poids, je prenais pas de poids, mais, tu sais, j'avais pris un peu. Moi, je me dis, j'ai beau une femme enceinte, je pouvais manger tout. Tu sais, je me dis, j'ai le goût du chocolat, je mange du chocolat. Mais avant, ça, ben, fait que je prenais pas de poids, mais là, finalement, ça fait.
Le poids est toujours là.
Philippe, 32 heures plus tard, mais je me dis, ben, tout est parti, quoi.
Oh, wow.
J'arrive au bout, moi. Tu sais, une guerrière, là. Je suis là. Je fais pour le pèse personne pour moi. Mais j'avais perdu le poids du bébé, plus le placenta. Tu vois, il restait au moins, je vais épargner les chiffres. Et puis j'avais mal partout, tu sais. J'avais tout, je vous épargne aussi. Fait que là, je m'en allais comme ça, mais les kilos, en plus, la montée de lait, je pouvais pas allaiter le bébé. Je me dis, c'est fini, tu vois. Mais imagine-toi cet esprit là qui dure, et c'est, ça pue, là, tu dis, ben, je suis une mauvaise mère, je serais pas... Toutes les filles sont capables de l'aider, pas toi. Fait que tout ça, la honte, là, faut briser ça, vraiment. Puis, tu sais, il y a des ressources aujourd'hui, je pense, avec les Fabuleuses, avec notre amie Hélène Bonhomme, il y a plein de ressources. Delphine, je sais qu'elle donne des conférences à ce sujet-là. Donc, se préparer, puis aller chercher des outils.
Vraiment.
Puis de dire, ben, écoute, ça fait partie de la vie, puis je vais m'en sortir.
Exactement.
Je vais m'en sortir.
Vous savez, parce que c'est le commencement avec les enfants. Ouais.
En plus, toi, c'est pas du tout ton genre d'être enfermé dans le noir.
Mais non, mais vraiment. Là, tu connais sa personnalité. Je veux te confirmer, habillé en mou, c'est pas son genre, non plus. En pyjama toute la journée. Ça devait quand même être un pyjama chic, là, j'imagine.
Même pas.
Pyjama chic avec les boucles d'oreilles qui allaient avec les pantoufles. Non, mort.
Non, t'es vraiment la débandade.
t'es vraiment post-partum.
Ah oui,
heureusement que tu l'as pas rencontré à ce moment-là. Là, t'es vraiment au fond du trou.
Et je confirme, c'était le cas en plus. Ah, vraiment.
Non, mais c'est un signe parce que Delphine est toujours fière et bien habillée. Donc, c'est un signe, c'est sûr que ton entourage va te dire.
Vendredi, tu seras encore avec nous, Delphine. Puis on va parler de ça, de l'image de soi, cette image de soi à l'intérieur, mais qui se reflète aussi à l'extérieur parce que tu es conseillère en image. Et on veut pas parler juste de style et de colorimétrie, mais ça commence à l'intérieur. Et ton parcours, en fait, pour en arriver là, on a compris que comment elle est sortie. Comment elle est sortie de son pyjama, même pas stylé.
Avec même pas de boucle d'oreille, hein, franchement. J'ai toujours mes boucles d'oreilles, mon pyjama. Depuis que je te connais, Delphine. Ouais.
Du coup, tu pourras nous raconter aussi toute cette partie de ta vie. Mais merci de nous l'avoir partagé. Et avant qu'on termine, est-ce que tu peux prier, Delphine, pour celles qui aujourd'hui sont encore dans cette période? Et tu sais, quand tu l'as raconté, c'était tellement beau. Et de dire, c'est terminé. Ce jour arrive. Ce jour, c'est terminé.
Amen. Merci, Jésus, pour ce moment. Merci, Père, pour tes filles. Je sais, mon Dieu, que tu les aimes, qu'elles ont de la valeur pour toi. Et vraiment, je prie pour chaque femme qui passe par ce moment-là. Vraiment, je prie vraiment qu'il y ait une paix qui surpasse toute intelligence, là, maintenant, où elles sont. Vraiment, Père, tu redresses leur couronne. Vraiment, tu les encourages. Mmh. Tu sèches les larmes, mon Dieu, mon roi. Merci, Père, pour leur vie. Elles ont donné la vie. Et vraiment, je prie qu'elles ne manquent de rien et qu'elles voient complètement ta gloire dans ce moment-là. Je prie pour que ça se termine. Je prie, Père, que durant ce temps de... qu'elles vivent, qu'elles voient vraiment que tu es présent dans chaque détail, dans chaque ombre, dans chaque instant. Mmh. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Donc merci Delphine, on peut te suivre sur tes réseaux.
C'est ça.
Delphine Le Pennec ou t'as un autre nom
Oui, j'ai un autre nom.
Ah, ok.
alors inspire.jd.
Ok.
Bon. Ouais, interviewé. Et ça, c'est Mrs. DLP sur.
Je l'aurais jamais su.
Sur ta Delphine Le Pénèque,
oui,
normalement.
Oui, c'est ça, exactement.
Ah oui, DLP, DLP pour Delphine Le Pénèque.
Oh my god, j'ai juste de comprendre. Tu
vois. Merci à la mère. Non, mais je peux dire en français si vous voulez.
Je suis, mais j'ai pas le fait.
DLP.
Je suis contente que je sois avec toi.
Ça te fait suivre Delphine. Comme ça, vous pouvez aussi suivre ses interventions, savoir où elle va, et puis avoir le plaisir de pouvoir la rencontrer. Merci Delphine d'avoir été avec nous. Tu seras là vendredi encore. À ne pas manquer. Et on se dit donc à vendredi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne manquer aucun épisode d'À table avec Annabelle, mais aussi tous les programmes de MCI. C'est très facile. Vous appuyez sur le petit pouce. Et si vous aimez l'émission, si vous êtes béni par les émissions, bah, n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime et à partager. Alors, on vous dit à vendredi. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions À table avec Annabelle sur emcitv.com.